Cours de philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 2 février 1990, deuxième cours.
Continuons. Maintenant, puisque tout mu est nécessairement mu par quelque chose, toutes les hypothèses. Et alors, on comprend très bien toutes les hypothèses sont y passées. Il ne faut pas être autrement. Alors, soit. C'est vraiment un raisonnement hypothétique, ça. Soit une chose est mue du mouvement local par une autre qui est mue. Et soit à son tour, le moteur est mu par autre chose mue. Et celle-là par un autre, par une autre. Et toujours ainsi. Peut-être très simple. Parce que tout ce que nous voyons est mu par un autre. C'est mu par un autre, c'est mu par un autre. L'imagination ne va pas très loin. L'imagination horizontale. Un type d'imagination horizontale. Nécessairement, il y a une chose qui est premier moteur. Et on ne peut pas aller à l'infini. Et l'on ne peut aller à l'infini. Mais parmi les moteurs, où les moteurs sont mus, où les moteurs ne sont pas mus, si le moteur n'est pas mu, ben, il est premier. On ne peut pas aller à l'infini. Comme raisonnement hypothétique. Alors, en effet, supposons qu'il n'en soit pas ainsi et que la série devienne infinie. Donc on suppose qu'on puisse remonter à l'infini. Alors à ce moment-là, la philosophie du devenir, la philosophie de la nature et la philosophie première. Il n'y a rien d'autre. Tout ça qui est dans l'idée de la de montrer que la philosophie de la nature est non seulement légitime, qu'elle est nécessaire, mais qu'elle n'est pas l'absolu. C'est la philosophie de la nature. Mais c'est très important parce que on se posera ensuite après, alors le vivant, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors le vivant aboutira aux noces séparées. Il y a deux aspects qui vont limiter la philosophie de la nature. Pour Aristote, et Aristote pense à ça, évidemment. Le premier moteur, c'est-à-dire le premier movens, et puis le nous, c'est pareil. Certains expliquent que la philosophie première va donc partir du premier moteur du nous séparé. Comme si, vous voyez, c'était une conclusion qu'on pose, qui sera le point de départ d'autre chose, ce qui est tout à fait faux. Puisque la philosophie part de l'expérience. Une conclusion. J'ai jamais l'expérience du premier moteur. Vous savez, ça, ce serait une décharge électrique. Si vous avez l'expérience du premier moteur, vous seriez complètement, radicalement fichu. Impossible. L'expérience du premier moteur. Ça appelle ça quand on dit premier moteur. Et le nous séparer. Vous n'avez pas l'expérience en plus. Sauf en rêve, quand vous imaginez que l'intelligence est libérée du corps, qu'il se promène là où elle veut. Vous n'avez pas l'expérience. Donc, la philosophie première ne part pas de là. Mais le premier moteur et le nous séparé montrent les limites de la philosophie de la nature. Ce qui est tout à fait. philosophie de la nature n'est pas exhaustive à l'être. L'être dépasse le devenir. L'être dépasse le vivant. Le vivant biologique ou le vivant spirituel. L'être, c'est l'être. L'être en tant qu'être. Et c'est pour ça qu'Aristote dira, et c'est ça qui est intéressant quand il regardera la philosophie première. La philosophie première n'a pas d'autre but que d'étudier le nous et Dieu. Voilà. Et de limite. Les deux aspects où la philosophie de la nature s'arrête. La philosophie de la nature s'arrête au premier moteur. La philosophie de la nature s'arrête au nous. Au nous, c'est pareil. Il faut donc une autre science, une autre partie de la philosophie qui regarde le nous séparé et Dieu premier moteur. C'est très cohérent ça. Si vous comprenez ce point de vue d'Aristote, la philosophie part de l'expérience. Nous allons continuer ce petit raisonnement pour vous montrer qu'on est en critique. C'est ça qui m'intéresse. Et qu'on n'est pas en philosophie première. Qu'on n'est pas en physique, en philosophie de la nature. En effet, supposons qu'il n'en soit pas ainsi et que la série devienne infinie. Nous dirons alors que A est mu par B, B est mu par gamma, gamma est mu par delta. Et l'alphabet est limité, ce qui est embêtant. Alors on peut mettre A prime après, on peut mettre gamma prime, et ainsi de suite. Que toujours le contigu est mu par le contigu. Puisque l'on suppose que le moteur meut en étant mu, c'est l'hypothèse, suppose, il faut que le mouvement du moteur et celui du mu se produit simultanément. Donc on va montrer l'impossibilité de remonter à l'infini. Que c'est absurde quand on prétend remonter à l'infini dans les moteurs mu, on aboutit à une absurdité. C'est pas autre chose, hein. Aboutir à l'absurdité, c'est négatif. Ça ne vous éclaire pas du tout. On montre impasse. Oui. Vous prenez pas cette route, c'est une impasse. Mais savoir que c'est une impasse, ça ne vous donne pas l'intelligence de la route. Vous savez que c'est une impasse. On ne peut pas remonter à l'infini. Impasse. Alors, voyez comment Aristote va le montrer. C'est intéressant à voir. Puisque l'on suppose que le moteur meut en étant mu. Il faut, que toujours le contigu est mu par le contigu. Puisque l'on suppose que le moteur meut en étant mu, il faut que le mouvement du moteur et celui du mu se produisent simultanément. En effet, le moteur meut et le mu est mu simultanément. Il y a un contact entre ce qui meut physiquement et le mu physiquement, ils sont continus. Ils se meut, ils sont simultanés. On voit dès lors que les mouvements de. Que les mouvements de A, d'alpha, bêta, gamma et des autres moteurs émus seront simultanés. Prenons donc le mouvement. Prenons donc le mouvement de chacun, soit et celui de A, zeta, celui de B, eta, celui de theta, ceux de gamma et delta, et theta, ceux de gamma et delta. S'il est bien vrai que toujours chaque membre de la série est mu par l'autre membre, cependant, on peut considérer le mouvement de chacun comme 1 numériquement, En effet, tout mouvement va d'un terme à un autre et n'est pas infini. Quant aux extrémités, je dis, l'ego, rare que reste à 10 ans, c'est la réflexion, cogito, je dis, l'ego. Est-ce que vous retrouverez cette formule dans un tableau? C'est là où Saint-Thomas apparaît. C'est très rare qu'il apparaisse. D'habitude, quand il part de la foi, il n'apparaît pas. Tandis que quand il dit Tycho, il apparaît. Il faudrait relever quelqu'un qui s'intéresserait à Saint-Thomas, tous les Tycho de Saint-Thomas. Comme tous les Lego d'Aristote. Parce que c'est là où vous découvrez Saint-Thomas pensant, Aristote pensant. Je dis qu'un mouvement est un numérique quand il se produit de ce qui est numériquement identique vers ce qui est numériquement identique dans un temps identique numériquement. Et la division d'un mouvement un numériquement. L'unité numérique, c'est l'unité individuelle. C'est l'individu. Mouvement peut être identique génériquement, spécifiquement, numériquement, génériquement, quand il est de la même catégorie, par exemple substance ou qualité, spécifiquement celui qui va du spécifiquement identique au spécifiquement identique, par exemple du blanc au noir ou du bon au mauvais. À supposer qu'il n'y ait pas là de différence spécifique. Numériquement, celui qui va de ce qui est un numériquement vers ce qui est un numériquement, et dans un temps identique, par exemple, de ce blanc vers ce noir, ou de celui-ci vers celui-là, et dans ce temps. Si, en effet, c'était en un autre, le mouvement ne serait plus un numériquement, mais seulement spécifiquement. C'est toutes les hypothèses. Alors, toutes les divisions viennent. Générique, spécifique, numérique. Mais on a disserté là-dessus antérieurement. Considérons donc le temps où A est achevé, a achevé son mouvement. Et soit A, soit K, ce mouvement, Kappa. Le mouvement de A étant fini, le temps aussi est fini. Mais puisque les moteurs et les mus sont en nombre infini, le mouvement epsilon, zeta, eta, theta, qui est formé de 12, sera infini. Ah oui, c'est une chose très très curieuse. On passe par le temps pour montrer l'absurdité d'un mouvement infini. Un mouvement infini est inintelligible parce qu'il importe un temps infini qui est inintelligible. C'est dur, la réduction. On cherche quelque chose qui sera plus évident. Et c'est ça qu'on fait en critique. Pour arriver à un ad hominem, quelque chose que vous constatez que c'est impossible. Celui de A, celui de B et les autres peuvent être égaux, ou être plus grands les uns que les autres, ainsi que les mouvements additionnés soient toujours égaux ou plus grands. Et de toute façon, le mouvement total est infini, car nous admettons le possible. Or, puisque le mouvement de A et ceux de chacun des autres sont simultanés, le mouvement total aura lieu dans le même temps que celui de A. Mais celui de A a lieu dans un temps fini, donc un mouvement infini aurait lieu dans un temps fini, ce qui est impossible. Thank you. dans un temps. Donc, mais celui de A a lieu dans un temps fini. Donc, un mouvement infini aurait lieu dans un temps fini. Ce qui est impossible. Vous voyez, c'est toujours par la base qu'on montre l'erreur. Ce n'est pas le divisible, ici c'est par le mouvement infini. Dans un temps fini. C'est un petit peu subtil parce que ça présuppose tout ce qu'Aristote a dit sur le mouvement et c'est très facile à comprendre puisque ce qui est mu et le me, ce qui est mu et ce qui me sont simules en même temps. C'est évident, donnez un coup de chicnode sur une balle, hein, votre chicnode atteint l'autre, et son continu est simule. C'est sûr. Donc il y a toujours une simultanéité entre ce qui est mu et ce qui veut dans le mouvement physique. Il ne peut pas être autrement, puisqu'ils sont un dans le mouvement. Ils sont donc mesurés par un temps fini, puisqu'ils sont limités. Mais si vous supposez qu'on peut remonter à l'infini, vous avez donc un mouvement infini, qui est en même temps que ce mouvement. Vous aurez donc un mouvement infini mesuré par un temps fini, ce qui est absurde. Alors, ce qui est intéressant ici, hein, ce qui est intéressant ici, au point de vue critique, hein, c'est se demander pourquoi Aristote se sert du temps pour montrer l'absurdité.
Est-ce que c'est pas plutôt l'intérieur et postérieur pour le premier mouvement?
Non, vous les prenez en acte, faites attention, là c'est l'analyse. Prenez l'exercice. Antérieur et postérieur, c'est l'analyse que vous faites par la causalité. La loi. Donc c'est l'analyse, vous formalisez. Tandis que si vous regardez l'exercice du mouvement, le mouvement c'est un exercice.
Oui, mais il y a un mouvement qui est quand même antérieur, qui est premier.
Non, 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 non. Là, vous imaginez. Mais oui, parce que tout ce qui est mu mais par un autre, cet autre est mu. Il est en acte, vous êtes d'accord? Et ils sont simules. Oui, c'est la simultanéité de l'acte et de la puissance.
Pour prendre une boule de billard, il y en a une qui bouge avant l'autre.
Ah oui, ça justement, parce qu'alors là, vous regardez, voyez, vous êtes dans le réel, et vous êtes ici dans l'imaginaire, dans le possible. Ah, vous voyez, vous asseyez sur la chaise. On fait tout le temps ça. Vous revenez au jugement d'existence. Donc le jugement d'existence est évident. Là, je réfléchis dans l'intelligibilité de l'hypothèse qui est fausse. Il n'y a pas de mouvement infini. Et pourtant, vous pouvez réfléchir dessus, hypothétiquement. Ah, vous dites ce raisonnement est faux, mais c'est évident qu'il est faux. C'est ce qu'on montre. Entrez dans le jeu de l'hypothèse. Vous n'y entrez pas. Mais suivez le point de vue du raisonnement. Ce qui est mu par un autre. Hein? Acceptez. Ce qui est mu par un autre. Cet autre est lui-même mu par un autre. Vous acceptez. Faut bien. Cet autre est mu par un autre. À l'infini. Vous acceptez l'hypothèse que c'est infini. Vous l'acceptez, cette hypothèse. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites tout de suite, oh, c'est absurde. Non, non, c'est pas absurde. J'ai le droit de faire cette hypothèse. Puisque certains l'ont fait. Il y en a une. Or, je reviens maintenant. Celui qui est mu par un autre. il est mu par un autre, ils sont nécessairement en continuité. Comment ils pourraient pas me voir? Je ne peux agir que sur celui, physiquement parlant, que celui qui est continu. Continu, ils sont donc en le même terme en même temps. Donc, le moteur et le mu sont un dans le mouvement. C'est pour ça que je prends un mouvement numérique, pas spécifique, ni générique. Je prends numérique, donc ils sont en même temps. Par le fait même qu'ils sont infinis, ils sont tous en même temps. Ils sont infinis en même temps. Et c'est un temps limité qui mesure ce premier mouvement. J'aurai donc un temps limité qui mesure un mouvement infini. C'est la pure hypothèse. On est en critique. C'est très amusant, vous voyez. On ne fait pas beaucoup de critiques comme ça. C'est amusant de faire des raisonnements hypothétiques au point de vue philosophique. Critique. Rien ne m'empêche de faire ce raisonnement. Mais je vois que c'est absurde. J'aboutis à l'absurdité. Alors, il faut se demander où est l'absurdité? À quel moment j'ai dévié? Oui. J'ai dévié tout simplement que c'est impossible de remonter à l'infini dans l'ordre des causalités. Parce que qui dit causalité dit quelque chose de réel. Enfin, c'est là où vous l'avez tout de suite. Mais il faut que c'est impossible. Tandis que si je me mets dans l'hypothèse, je dis bien que c'est une hypothèse, je ne suis pas dans le réel, je regarde l'intelligibilité du mouvement. J'ai parfaitement droit de regarder l'intelligibilité du mouvement, pas le mouvement réel. C'est ce que vous faites, la boule de billard, est-ce que vous avez imaginé ça? Alors faites une hypothèse de ce que c'est que le mouvement, de ce qui est mu, et mu par un autre. Très très amusant comme chose pour montrer que il est impossible de penser qu'on remonte à l'infini dans l'ordre des causalités. Ce qui est mu par un autre. C'est curieux parce que ça montre, vous voyez, comment l'imagination, si elle n'est pas canalisée, aboutit toujours à des absurdités. Tout le temps. Si l'imagination n'est pas canalisée. Et pour que l'imagination soit pas canalisée, il faut tout le temps venir au jugement d'existence. Parce que ça s'imagine très vite, hein. Tout de suite. Alors, je me pose la question, parce que ça c'est intéressant pour nous, comment se fait-il que l'absurdité, que l'impossibilité se révèle du côté du temps? Et non pas immédiatement du côté du mouvement. Je fais appel au temps. J'espère que vous voyez tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le temps? Mesure de ce qui est mu. Si le mouvement est mesure de ce qui est mu, si le temps est mesure de ce qui est mu, la mesure implique une détermination. Une détermination dans l'ordre physique est toujours finie. Donc le temps fini devrait mesurer un mouvement infini, imaginatif. Ce qui est impossible. Imaginatif pour moi, hypothétique, mais réel. Ce qui est impossible. Et tandis que lorsque je me mets dans le mouvement, dans le mouvement, il y a toujours le divisible. Il y a toujours la puissance. Alors, je peux toujours en ajouter. Je ne peux pas faire ça pour le temps. Le temps n'implique pas de divisible. Le temps implique une mesure. effectuer toute et tout à détermination. Le propre du mouvement, c'est d'impliquer la détermination. Donc, le mouvement favorise, c'est très intéressant, la remontée à l'infini. Le mouvement, nous savons très bien, c'est un sensible commun. Et les sensibles communs, quand je les imagine, apparaissent comme premiers. Et non plus les sensibles propres. Et c'est pour ça que le mouvement donne l'illusion d'être infini. Dans tous vos cauchemars, l'infini se présente toujours dans le mouvement. Pas de raison que ça s'arrête. Le mouvement comme tel, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Puisque c'est le mouvement. L'anti-mouvement, c'est le repos. Alors le mouvement comme tel n'a pas de raison de s'arrêter. Ce qui est mu doit s'arrêter. Là, ça vous fait penser. Imaginez. C'est très intéressant, vous voyez, parce que c'est là où on retrouve comment l'importance des sensibles communs et des sensibles propres. Dans les sensibles propres, vous n'avez jamais la tentation de partir à l'infini. Dans les sensibles communs, oui. Vous imaginez une quantité infinie. Vous imaginez un mouvement infini. Vous imaginez un repos infini. Ça, c'est terrible. C'est tous les sensibles communs auxquels on met l'infini. Parce qu'ils sont imaginés. Oui. N'est plus le temps d'Aristote. Alors il n'a plus de repère. Oui. Il n'a plus de repère, donc il peut, parce qu'il prend d'un point de vue critique le temps, et non plus d'un point de vue réaliste. Et il prend le temps d'un point de vue critique, parce que de fait, il n'a plus le sens de l'instant présent. Le scientifique ne regarde pas l'instant présent. Ne regardant pas l'instant présent, il n'a plus qu'au point de vue du temps que l'antérieur et le postérieur, le passé et le futur. Donc c'est un ordre. Et l'ordre n'est pas un sensible propre. Et l'ordre peut, par le fait même, imaginer à l'infini.
Quand le scientifique fait une approximation,
oui.
Il s'arrête à un moment. Par exemple, dans l'échelle du temps.
Oui, mais est-ce que parce qu'il fait une application?
Oui, justement.
Alors là, il revient au temps.
Ça montre qu'au moment où il récupère le réel.
Oui, voilà, il récupère le réel. Mais il récupère le réel dans la lumière, vous voyez, de l'hypothèse.
Oui.
Vous voyez, puisqu'il formalise le réel par l'hypothèse.
Oui.
Et alors, à ce moment-là, il y a la séduction de l'hypothèse, il formalise. Mais s'il était tout à fait objectif, très curieuse.
Oui, mais c'est ce qu'il fait quand même, justement. Pour que l'hypothèse qu'il a fait...
C'est ce qu'il fait. Dans certaines applications. Dans les applications où il est en face de quelque chose qui n'est plus immédiatement expérimentable, il ne peut plus le faire. Il continue ses calculs. Oui, parce que le réel qui touche, c'est pas le réel métaphysique. Est-ce que ce n'est pas le réel des sensibles communs, le mesurable? Est-ce que pour le scientifique, il y a un réel autre que le mesurable qui est donné par le jugement d'existence? C'est ça, la grosse question. Le jugement d'existence comme tel n'est pas présent. Autrement, il dirait, c'est la métaphysique qui va de fait me rappeler les limites de mes calculs. Non, c'est pas ça qui fait. C'est la constatation. Or, la constatation se fait par des mesures qui ne saisissent plus que le sensible commun. Oui. Pour la biologie, c'est très net. Alors, il y a une certaine objectivité, je suis tout à fait d'accord, l'objectivité des sensibles communs. Mais les sensibles communs, comme ils sont saisis par l'intermédiaire d'instruments qui grossissent énormément le point de vue de la quantité, pas comme un. L'expérience au sens aristotélicien, au sens commun, ceci est, je le touche, c'est le réel de l'expérimentation, saisi à travers les appareils qui mesurent ce réel, et qui saisissent que les sensibles communs, qui sont eux, agrandir ça à la vie. C'est une certaine limite, je suis d'accord. Mais ce n'est pas la limite du réel existant.
Oui. Il y a quand même un moment, même lorsqu'on lit un appareil,
oui.
On fait en définitive appel à un sensible propre. Et c'est justement la variation ou non de ce sensible propre qui détermine le sensible commun. La sensibilité
non, est-ce que c'est vraiment ce sensible propre qui détermine ce sensible commun? Ou est-ce que, à un moment donné, on fait foi à ce qu'on voit à travers l'appareil, sans aucune référence au sensible commun, au sensible propre?
Oui, dans l'esprit, effectivement, mais ce qui se passe pour le sensible, c'est finalement, il bute, et donc il se met à...
Oui, mais c'est négatif, c'est ce que dit Popper dans sa recherche sur le point de vue scientifique, sur l'objectivité. Il dit l'objectivité, alors il ne dit pas le sensible propre, ça l'aurait été. Il aurait pu être plus précis s'il avait pris de sensible propre. En disant, on se heurte en définitive à un sensible propre. Ce sensible propre est uniquement pour rejeter la chose négativement, mais pas positivement. Oui. Donc il rejette. Il dit, cette hypothèse ne peut pas s'appliquer. Donc il y a un rejet. Donc le sensible propre, l'aspect objectif, joue un rôle purement négatif. C'est curieux, tu vois. Et tout le positif de la recherche n'est pas dans les sensibles propres. Oui. Donc un rejet. Et alors il me semble que ce rejet est là pour indiquer une limite. C'est vrai. Mais ne corrige pas le point de vue. Oui. L'ordre. Très très subtil ça. Bon. Ceci, c'est pour vous montrer, hein. Je crois que vous l'avez quand même suffisamment, qu'on est vraiment dans une perspective critique. On ne peut pas remonter à l'infini. Or, tout repose là-dessus. Si on pouvait remonter à l'infini, il n'y aurait pas de premier moteur. Alors le premier moteur s'impose parce qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Raisonnement critique. Alors, qui est très intéressant, hein, c'est très très intéressant. Parce que par rapport aux scientifiques, c'est peut-être le seul point par où la philosophie rejoint la science. C'est par le point de vue critique. Je ne crois pas, parce que ça c'est un problème important pour les degrés du savoir, je ne crois pas qu'on rejoint la pensée scientifique par ce côté positif de la métaphysique et de la philosophie de la matière. Le seul point par où on rejoint la pensée scientifique, c'est la critique. Alors, on rejoint la pensée scientifique pour la critique pour montrer qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Que ces calculs infinis sont purement imaginaires. Il n'y a plus aucune vérification. Vous partez dans le bleu. Et dès que vous êtes dans l'application, alors oui, il y a un rejet, mais un simple rejet qui ne corrige pas l'ordre que vous prenez. Et c'est pour ça que si facilement, ce rejet, on l'estompe. Mais c'est le passage de données scientifiques à la vulgarisation. Je crois. Parce que ça, c'est très intéressant. Le passage de là à la vulgarisation. Je crois que la vulgarisation ne fait plus attention à ce rejet et prend le calcul pour lui-même. C'est l'ontologisme. Le vrai savant n'est pas ontologiste. Le vrai savant. Et on passe si facilement de la science à la vulgarisation. La vulgarisation se fait par l'ontologisme, vous voyez. Je continue. La proposition du début, 242A16. Maintenant, puisque tout est mu, tout mu est nécessairement mu par quelque chose, la proposition du début semble être ainsi démontrée. Elle est démontrée critiquement. Vous voyez ? Alors, elle semble ainsi démontrée, je comprends très bien qu'on arrive à dire, mais oui, c'est une démonstration. Auto men un doxeien an dedectai to ex arches. Donc le to ex arches, ce qui a été posé dès le début. Ce qui a été posé dès le début. Mais on ne dit pas l'hypothèse ou... Non, le to ex arches. Ce qui est premier semble être démontré. Quel genre de démonstration? Une démonstration critique. Tout ce qui est mu par un autre. C'est pas une démonstration philosophique. Alors encore une fois, hein, Aristote ne distingue pas. Du moins, Aristote ne sépare pas. Il distingue. Je crois qu'il le distingue.
Pourquoi cette démonstration critique n'est pas satisfaisante pour le philosophe?
Ben parce que le philosophe regarde la réalité. Et non pas l'intelligible. Vous voyez, voie sans issue, c'est ça qu'on voit montrer. Une voie sans issue ne construit rien. Vous voyez, quand vous êtes en face d'une voie sans issue, vous dites, ah, voilà la voie. Pas du tout, voie sans issue.
Est-ce qu'on veut dire que c'est l'analogue à l'ontologisme qui part de l'idée d'infini?
Tout à fait. Tout à fait, c'est là. Analogue à ça. C'est tout à fait différent, les analogues.
Et alors la première voie.
C'est pour ça que je vous dis que les voies de Saint-Amand, c'est critique.
Donc ça démontre quoi?
Ça montre qu'on est devant une impossibilité. Que si vous prenez le point de vue de l'idéologie athée, vous faites un contresens. Ce n'est pas intelligent. L'athéisme est inintelligible. Voilà ce que ça démontre. C'est quand même intéressant. Ça ne démontre pas que Dieu existe. Oui. Alors Descartes, là-dessus, modo geometrico. C'est extraordinaire. Parce que ça se tient, tout ça. Ça va jusque Descartes, ça va jusqu'aux athées modernes.
il y a quelque chose qui, à un moment donné, la démonstration d'Aristote, vous voyez, or Aristote reconnaît qu'il y a des démonstrations qui peuvent être critiques et des démonstrations qui peuvent être métaphysiques. Il reconnaît ça parce qu'il distingue le principe de la cause. Si on n'a pas distingué le principe de la cause, on aboutit à ça. C'est des démonstrations qui partent d'un principe ex arches. Il dit pas à partir de la cause. C'est très précis, Aristote. C'est parce que nous sommes des esprits grossiers qui marchons à quatre pattes. C'est tellement plus commode. Donc la proposition du début semble être ainsi démontrée. Cependant, il n'en est rien. Parce qu'on n'a pas mis en évidence aucune impossibilité. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Démontrer quelque chose, c'est montrer son impossibilité. Il l'a dit textuellement, là. Or, Aristote dit, dans les topiques, que la démonstration par mode d'impossibilité, c'est pas une démonstration philosophique, une démonstration critique. Mais on a tout confus, tout confondu. Alors, car un mouvement infini peut avoir lieu dans un temps fini. Alors, Aristote revient. C'est la correction de la preuve précédente. C'est une nouvelle hypothèse. C'est pas la correction, c'est une nouvelle hypothèse. D'une manière pour montrer que ce qu'on a dit précédemment ne marche pas. Car un mouvement infini peut avoir lieu dans un temps fini. Non d'un seul sujet, mais de plusieurs. Vous voyez ? Alors, c'est le divisible qu'on va ajouter. On va ajouter du côté quantitatif. C'est très amusant ça. L'autre jour, j'y pensais, parce que je devais aller rapidement à Sénanque, et on a assisté à la grève à Avignon, la grève des camions. C'est très bien, c'est amusant, la grève des camions, pour philosopher. Un camion, plus un camion, plus un camion, plus un camion, plus un camion. Et vous êtes bloqué. Vous êtes mis au repos. C'est pas commode, hein, c'est pas drôle quand on est pressé, la grève des camions. Et ça se fait astucieusement, ça laisse libre l'autoroute, mais ça bloque la sortie. Sortie nord, sortie sud, alors on est obligé d'aller plus loin. Puis on retrouve la même chose. Là, on est devant quelque chose de réel. Mais c'est pas l'infini, c'est tout simplement la quantité. Certaines quantités vous bloquent. Je sais pas combien de camions il faut, mais ça vous bloque. C'est pas drôle du tout. Ça fait réfléchir à l'hypothèse de l'infini. Venez, c'est hypothétique. Là, vous voyez, c'est vraiment ça qu'Aristote met, c'est très amusant ça. Aristote a pensé à cette grève. Ces grévistes sont dans la seconde hypothèse. Pas la première, mais la seconde hypothèse. Un mouvement infini peut avoir lieu dans un temps fini. Non d'un seul sujet, mais de beaucoup de camions. À ce moment-là, vous avez la multitude des plusieurs. Or, c'est bien le cas ici. Chaque mu se meut en effet, ou est mu en effet, de son propre mouvement. Alors, chaque mu, il faut regarder le point de vue de chacun, du fait même qu'il est mu. Peut-être qu'il est mu, donc pas qu'il se meut, en effet, de son propre mouvement. Vous voyez, c'est là on voit aussi qu'il n'a pas compris. Se mouvoir pour Aristote, c'est plus la physique, c'est le vivant. Aristote ne dit pas du tout qu'il se meut. Il est mu, en effet, de son propre mouvement. Il n'y a rien d'impossible à ce que plusieurs choses soient mues simultanément. Vous avez réquisitionné, par hasard, tous les camions de la Terre. tous là. Donc c'est infini comme quantité. Et on passe du mouvement infini au fondement, le divisible, la quantité. Vous imaginez une quantité infinie. Rien n'empêche ça. Passez par le petit trou. Ça, c'est un arrêt réel. Je l'ai entendu, sensible propre.